Voilà, merci au commandant Jean-Marie Gonçalves depuis Goma. Cela nous amène tout droit dans la deuxième partie de cette conférence de presse, la partie questions-réponses. Je vous demanderai une fois de plus, et gentiment d'ailleurs, de fermer vos portables ou de les mettre en tout cas sous silence. Et je rappelle que nous avons ici à Kinshasa l'équipe pays diligentée ou en tout cas dirigée par Joseph Potopoto, qui a évoqué tout à l'heure dans sa présentation les activités menées par ONU SIDA, la FAO, l'UNESCO, le PNUD d'ailleurs. Et nous avons aussi écouté tout à l'heure le rapport mensuel de José María Aranaz, le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui a mis l'accent, une fois n'est pas coutume, sur les brimades faites aux journalistes, je crois, c'est bien ça, particulièrement le mois passé, et bien sûr d'autres violations des droits de l'homme que vous avez tout à l'heure à écouter. Bien sûr, nous avons une fois de plus le commandant Gonçalves qui pourra répondre à des questions militaires. Et je voudrais vous présenter, avant que l'on ne commence, le chef de l'information militaire, Monsieur Martin, qui nous a rejoint nouvellement. C'est lui qui prendra donc en place le poste du colonel Bass. C'est le lieutenant-colonel Martin, donc, Amouzou, qui vient du Bénin et qui va nous rejoindre bientôt et qui va être régulièrement en poste à Goma. Voilà, nous restons ici à Kinshasa pour prendre deux questions. Une question là de femme, une deuxième question de femme, et ensuite à côté ici d'abord. Voilà, et puis on ira de l'autre côté.
Bangré pour l'agence France Presse. Une question pour vous, Monsieur Bambara. La Cour constitutionnelle a annoncé hier qu'il n'y aurait pas d'élection avant celle des gouverneurs. Je voulais savoir si, selon la MONUSCO, cette décision allait dans le sens du respect du calendrier, donc des élections, y compris pour la présidentielle. Et une question pour Monsieur Aranaz. Vous parlez d'un impact direct sur la crédibilité du processus électoral concernant des violations des droits de l'homme. À quoi faites-vous allusion précisément?
Pour la première partie du volet de votre question, il faut juste rappeler que la MONUSCO a un mandat très précis et très clair donné par la résolution 2211 du Conseil de sécurité qui nous demande d'accompagner au plan logistique et technique l'organisation des élections dans le pays et qui nous demande également d'accompagner au point donc des bons offices l'ensemble de la classe politique congolaise afin que les élections puissent se passer dans un climat apaisé. Alors, pour ce qui est des dernières décisions prises par la Cour constitutionnelle, nous voulons dire que cela relève vraiment de l'autorité et de la compétence, j'allais dire, ça relève de la souveraineté nationale. Pour ce qui nous concerne, nous n'allons pas commenter cette décision, mais nous voulons juste rappeler qu'effectivement la communauté internationale est prête, pour ce qui la concerne, en tout cas, à accompagner la RDC dans l'organisation des élections dans leur ensemble, une fois que cela est programmé, et particulièrement les élections législatives et la présidentielle de l'année prochaine. Et nous allons, nous, en ce qui nous concerne, au niveau de la MONUSCO, donc, mobiliser la communauté internationale. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Martin Kobler, a commencé à le faire, c'est vrai, ici en RDC, en rencontrant régulièrement l'ensemble des diplomates occidentaux présents à Kinshasa, mais également lors de ses voyages à l'étranger. Il essaie donc de mobiliser cette communauté internationale pour leur rappeler que cette élection, que la présidentielle et les législatives sont capitales et que la communauté internationale donc devra répondre présent aux côtés du peuple pour que ces élections aient lieu et puissent être organisées une fois de plus dans un climat apaisé. Deuxième partie de la question était, je crois, pour M. Aranaz.
Oui, comme tu sais déjà, la résolution du Conseil de sécurité pour la MONUSCO fait référence à la crédibilité du processus électoral au moins dans deux occasions. La première, ça dit que la MONUSCO, à travers le département des droits de l'homme, a un mandat pour rapporter, informer, documenter les violations des droits de l'homme dans les contextes des élections. La première chose. La deuxième, c'était tu l'appui des Nations Unies au processus électoral était conditionné à la crédibilité du processus. Il y a de la crédibilité technique, mais il y a la crédibilité qui était liée avec le respect à les libertés publiques, qu'on parle de liberté d'expression, association, manifestation, à la sécurité de tous les acteurs, la liberté d'action de tous les acteurs impliqués dans le processus électoral. Et on parle pas seulement des partis politiques, mais aussi de la société civile, les acteurs de société civile et défenseurs des droits de l'homme, qui sont les mandats concrets. On parle aussi des médias en général, on parle des observateurs. Et on parle aussi de la neutralité de l'administration électorale, la CENI, les tribunaux de justice, et aussi les agents étatiques comme l'armée, la police et autres agences de la sécurité. Tout ça va nous donner la crédibilité du processus électoral, et c'est pour ça que nous sommes déjà en train de partager toutes nos conclusions avec les gouvernements en tant que mettre en place les mesures appropriées pour donner le processus la crédibilité nécessaire.
Question à la... Pardon. Ok. Bon. On reste où alors? On a un micro là? Oui. Prenez le micro parce que nous sommes en direct sur Radio Okapi.
Excusez-moi, ma question c'était de savoir quelle violation avait été commise en août qui avait un impact direct sur la crédibilité du processus électoral.
Arrestation, complètement, arrestation extrajudiciaire des membres de la société civile qui sont après transférés au parquet de la République, aussi les menaces aux journalistes et aussi arrestation des autres agents qui étaient impliqués dans la liberté d'information.
Merci. Nous restons sur la gauche là. Donnez le micro à côté en attendant qu'on remonte un peu plus haut.
Merci. Léa Osterhoff de RFI. Je voudrais rebondir sur la question de ma collègue. Vous parliez de violations auprès des journalistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et en quelle mesure ça a un impact sur la crédibilité ou non du processus? Est-ce que vous avez l'impression que ces violations ont d'ores et déjà augmenté? Est-ce que ça a une tendance, inquiétante ou non par rapport au processus? Merci.
J'ai parlé des 24 violations enregistrées dans les mois d'août et un bilan global de cette année de 122 violations qui sont des relations avec un processus électoral qui n'a pas déjà encore commencé. Par rapport des journalistes, la liberté d'information et la transparence, c'est essentiel pour la crédibilité du processus électoral. Je peux rappeler le cas de certains journalistes qui ont été menacés. On a documenté aussi le cas de certaines agences de presse, CNews, ils sont forcés à arrêter la publication des informations et ce qui était implié dans l'impression du magasin, ils ont été arrêtés. Oui. On a déjà constaté l'augmentation des chiffres de violations par rapport du mois antérieur, si je me rappelle correctement. Oui. Mais c'est préoccupant. En tout cas, la chiffre globale depuis le début de l'année, c'est préoccupant. Et 24 violations dans un seul mois, c'était très élevé.
Bon,
ça confirme la tendance de restriction.
Nous allons passer le micro à une dame encore. Nous sommes gâtés cette fois-ci. Allez-y.
Monsieur José, ma question est celle-ci. Quels sont les...
Votre nom, votre organe?
Nénette Fomba, Journal Opinion. Quels sont les mécanismes à mettre en place pour réduire la violation des droits de l'homme?
La première chose, c'était la vérification de l'information. Et le mécanisme de vérification, ça suivit une méthodologie très, très précise. Avec la vérification sur différentes sources. Après ça, toujours on partage l'information avec les autorités relevantes. c'est seulement après ça qu'on fait l'information publique. Il y a l'intervention des Nations Unies, et nous sommes différents des autres organisations, comme les organisations non gouvernementales, ça donne toujours l'opportunité aux autorités de prendre les mesures correctives, et seulement après ça, qu'on fait l'information publique.
Direction Goma, avec votre permission. Vous vouliez ajouter quelque chose, c'est bon?
Je pense parce qu'il y a peut-être mon collègue de Goma veut ajouter quelque chose.
D'accord, mais nous allons rester à Goma d'ailleurs pour prendre trois questions. Est-ce que Aziz, tu es sur place? Aziz, vous avez quelque chose à ajouter peut-être?
Bon, je pense juste que, comme José l'a dit, ce qu'on peut ajouter de façon très claire, il l'a mentionné, nos rapports sont partagés avec le gouvernement. C'est la procédure qui est établie. La meilleure façon de réduire les types de violations, c'est d'échanger avec le gouvernement, d'entretenir un dialogue et de responsabiliser les responsabilités. C'est le gouvernement qui a signé des conventions et qui s'est engagé à respecter les droits. Donc les violations, le niveau de protection à mettre en place, il revient au gouvernement de le faire. Et dans ce sens-là, nous les appuyons et nous les accompagnons afin que le système de protection soit réellement au niveau qui soit et qui permette réellement de réduire ces violations-là.
Merci. Je rappelle simplement que Aziz Diop est donc directeur adjoint du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Trois questions à Goma, s'il vous plaît.
Oui, bonjour Charles. À Goma, nous avons plutôt les hommes qui ont posé les questions. Je commence avec Victor Bagatti.
Moi, c'est Victor Bagatti. Je pose tout droit ma question à Charles. Quel conseil à donner aux ressortissants nord-kivu et en particulier ceux de la province du parti nord, de la province du nord-kivu, Beni et Butembo, pour réduire le massacre à répétition à Beni et pourquoi pas pour qu'on la finisse définitivement?
Quel conseil à donner aux populations de Butembo? Nous avons une mission qui est celle de protéger les populations locales et je voudrais simplement, et nous avons à plusieurs reprises lors de nos conférences de presse avec vous ici, demander la collaboration des populations locales. Cette collaboration est d'autant plus importante que sans l'information sur le terrain, il nous est difficile d'orienter, de guider les troupes sur le terrain afin qu'elles aient une efficacité maximum. Alors, je crois que c'est important. C'est vrai que nous avons les drones, mais vous savez que une fois dans l'air, et c'est pas à tout instant du jour et de la nuit que les drones sont en train de survoler les zones. La collaboration des populations est primordiale et capitale pour nous permettre de neutraliser ces groupes armés qui nuisent au bon fonctionnement des différentes localités, territoires et, j'allais dire, à la paix et la quiétude dans ces zones. Et c'est vrai que nous travaillons main dans la main avec les FRDC qui sont à nos côtés et ce partage d'informations doit se faire également avec les FRDC, avec la PNC, avec les différents organes de sécurité présents sur place afin que nous puissions vraiment les aider, aider ces populations à continuer à vivre dans la paix, dans la quiétude, comme je l'ai dit. Merci, nous restons toujours à Goma pour prendre deux autres questions.
Oui, c'est Inga Patin de Haïti. Ma question s'adresse au chargé de l'humanité, humanitaire. Présentement, quelle est la situation actuelle des réfugiés burundais enregistrés à Uvira, au sud Kivu? Parce que j'ai enregistré tant de lamentations auprès de ce premier en matière d'assistance humanitaire. Merci.
A-t-on quelqu'un du HCR ici? Non, mais nous allons... je vais demander à Joseph Potopoto de transmettre cette question à HCR pour que lors de la conférence de presse locale, car nous savons que vous avez une conférence de presse à Goma les lundis et les vendredis, donc vendredi prochain, vous pourrez avoir peut-être ces éléments d'information avec le chef de l'information publique sur place à Goma. Désolé pour cela, nous restons toujours à Goma pour une autre question.
Oui, merci Charles.
Je voudrais savoir de la part des observateurs des droits de l'homme, pourquoi beaucoup des cas de violations du mois passé sont attribués à la police? N'est-elle pas dans l'exercice de ses fonctions?
Nous restons où à Goma ou à ici à. Ouais. Pourquoi la police est-elle impliquée dans beaucoup de violations n'est pas de là.
Je pense qu'il y a une question de préparation, il y a une question de mécanismes disponibles à la police pour faire le travail, il y a une question aussi, il y a une culture dans le passé d'impunité que les autorités sont en train de corriger. C'est pour ça que j'ai souligné qu'il y avait au moins 10 membres, 10 officiels de la police qui ont été condamnés pour actes de violation des droits de l'homme dans les mois passés. Peut-être Aziz peut ajouter quelque chose par rapport à la situation à l'Est.
Aziz, en deux mots.
Tout à fait. Oui, pour la PNC, ce qu'il faut surtout noter, c'est que quand nous faisons la collecte d'informations, nous avons noté effectivement qu'il y a une augmentation des violations sur certaines parties de l'Ouest. Et ça concerne beaucoup plus les restrictions des libertés publiques dont nous parlons. Quand nous parlons de atteinte à la liberté de réunion, de manifestation publique, c'est souvent le fait d'agents de la police qui sont réquisitionnés ou actionnés par l'ANR. C'est ça la vérité, c'est ce qui se passe en vérité. Bon. Pour ce qui se passe à l'Est, les violations dans lesquelles la PNC est impliquée, pour beaucoup, il y a des suivis qui sont faits. Ça, nous devons le reconnaître. Il y a des suivis. Le suivi est fait. Des actions collectives sont prises. Et quelquefois, c'est ce que le directeur vient d'indiquer, il y a des condamnations qui ont été prononcées à l'encontre de policiers qui étaient poursuivis pour des infractions qui représentent pour des faits représentatifs de droits de l'homme, de violation de droits de l'homme, excusez-moi.
Voilà, merci bien Aziz Choi, je dis bien Choi et non Job comme tout à l'heure. Et nous revenons ici donc à Kinshasa pour prendre deux questions. Gauche ici et puis ensuite là. Je reviendrai à vous.
Laurence Mandala, Africa Télévision. Ma question s'adresse au porte-parole militaire, mais Monsieur Charles Bambara, j'aimerais que vous répondiez aussi à cette question. Il a dit tantôt que des tueries des civils à la machette par des éléments supposés appartenir aux ADF se poursuivent au Nord Kivu. Il a dit supposés appartenir aux ADF. Y a-t-il un autre groupe armé qui aurait le même mode d'exécution que les ADF dans cette partie de province? J'aimerais savoir. Et puis, quel est le bilan des opérations militaires conjointes menées par les FARDC et la MONUSCO dans cette partie du pays? Donc, je parle de Beni, parce que nous avons l'impression que le massacre se poursuit malgré la présence de ces deux forces sur terrain.
Un mot, s'il vous plaît, Major Gonsalves, si vous le souhaitez.
Merci, Madame la journaliste. En effet, à ce jour, 49 éléments des FNPI ont été tués au cours d'opérations, 153 se sont rendus ou ont été capturés, 33 armes et une lance roquette et 32 armes AK-47 ont été récupérées, et 29 enfants liés à ce groupe armé séparé. Voici donc à peu près le bilan de la lutte contre ces groupes armés.
Nous allons peut-être préciser un peu, la dame demandait plutôt du côté ADF dans le territoire de Beni, et il faut dire que avant le début de l'opération Sokola 1, lorsqu'il n'y avait pas d'opération du tout, ce groupe avait vraiment, on pourrait dire, quartier libre dans cette zone du territoire du Grand Nord. Mais c'est vrai qu'avec le début de cette opération Sokola 1, il y a de cela un peu plus d'une année comme vous le savez, nous avons mis à mal... j'allais dire les bastions traditionnels des ADF qui ont été, qui ont éclaté littéralement. Vous saviez que beaucoup de personnes avaient été enlevées par les ADF, séquestrées dans la brousse, et grâce à cette opération Sokola 1, nous avons pu vraiment démanteler pas mal de réseaux. C'est vrai que encore aujourd'hui, la semaine dernière, il y a eu ces massacres-là que nous déplorons, que nous condamnons, et nous voulons une fois de plus appeler au renforcement de la coopération FARDC-MONUSCO, car c'est ensemble que nous pouvons faire la différence. C'est ensemble que nous sommes beaucoup plus forts pour gagner cette guerre contre les ADF, qui sont un groupe terroriste. Vous avez parlé de leur mode opératoire, ils ont décapité des gens, comme ça se passe ailleurs dans le monde. Et cela est inadmissible. Nous condamnons cela une fois de plus. Et je sais qu'avec la détermination que nous avons vue de la part des FRDC et avec l'appui technique, opérationnel que peut apporter la MONUSCO, si nous nous mettons ensemble, effectivement, je donne cher que la fin des ADF peut se compter en quelques semaines dans cette partie du Nord Kivu, et c'est ce que nous souhaitons de tous nos voeux. Nous restons ici pour prendre une question, décidément. Nous avons pas mal de dames aujourd'hui qui sont inspirées. Allez-y.
Merci pour la parole. C'est Lauriane Landou du journal La Prospérité. Ma question s'adresse à Monsieur Potopoto. Vous êtes parmi les organisateurs, vous, donc, l'UNICEF ou l'UNESCO, je ne sais pas. Vous êtes parmi les organisateurs des campagnes d'inscription des enfants de 6 à 7 ans en première année primaire. Je voulais savoir, c'est juste une curiosité, si l'UNESCO ou l'UNICEF prévoit un appui financier pour ces enseignants-là, ces enseignants qui vont